dès 13h.
Salut à tous, et oui, on va laisser couler 3 heures de bon blues aujourd'hui. C'est Sweet Home Chicago, numéro 940, Marc, avec vous jusqu'à 16h sur le 666, avec Manu Lanvin. Manu Lanvin, disque coup de cœur du mois de juillet, et également coup de cœur de l'été, puisqu'il y aura également des émissions en août. Donc cet album de Manu Lanvin, qu'on continuera à découvrir tout à l'heure, c'est le tout dernier. Par contre, on va pouvoir aujourd'hui, grâce à cette interview qui nous attend aux alentours de 13h30 avec Manu en direct, découvrir peut-être pour certains l'entièreté de la discographie de Manu. Manu Lanvin and the Devil Blues, l'album s'appelle Sons of the Blues, on vient d'entendre Laisse couler, interview tout à l'heure, et puis deuxième interview va partir de 14h30, l'ami Jérôme Pietri pour son tout nouvel album qu'on connaît déjà bien sûr dans l'émission. Voilà, on est ensemble jusqu'à 16h, je n'oublie pas vos dédicaces en troisième heure, il y en a deux pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres d'ici là. On continue avec un extrait du tout premier album de Manu Lanvin qui s'appelait Venir au monde, un disque sorti en 2000, l'extrait Les Leurs.
Aventuriers des sens, nous explorions la nuit, cherchant dans les substances les blessures enfouies. Au matin, nous regardions les villes s'animer. L'éveil était pour nous l'heure d'aller se coucher. Écoute mes songes échoués. Tard dans un lit défait, les mensonges qu'au matin long. chaque jour, nous ramenions nos perles. Parlions de nos bohèmes et des nuits étoilées. Des mondes visités, des rires qui déferlent. Des prismes de nos rêves offerts pour un baiser. Écoute mes songes échoués. Tard dans un lit de fée, les mensonges qu'au matin l'on faisait. Des autres et de notre avenir, mais sous le masque fier de nos mines enjouées, nos plaies étaient profondes, fragiles nos soupirs, et nous cherchions en vain la main qui nous quittait. Écoute mes songes échoués. Écoute, écoute mes songes échoués. Seul dans un lit de fée. Les mensonges qu'au matin l'on faisait.
Extrait du tout premier album de Manu Lanvin enregistré en 2000 qui s'appelait Venir au monde, les leurs, toujours dans Sweet Home Chicago. Je vous rappelle qu'on aura Manu au téléphone tout à l'heure à 13h30 en interview. On poursuit la disco avec un album de 2004 qui s'appelait Les Temps Mauvais. Les Temps Mauvais, voici le Sniper.
Revoir ma maison en toi.
Les temps mauvais, c'était en 2004 avec ce titre, le Sniper, tout est fragile ici-bas. Écoutez bien les paroles, hein, ça continue. On est dans notre première heure de ce Sweet Home Chicago numéro 940 spécial Manu Lanvin. J'aurais tellement aimé vous passer un extrait de son album de 2006, Faible Humain. Il passait très bien dans la voiture tout à l'heure, même à fond. Et puis malgré les 34 724 platines CD, il n'y en a pas une seule qui fonctionne ici à Radio 666 avec ce disque-là. Donc on sera obligé directement de passer à son album de 2012 qui s'appelait Mauvais Casting. Il y a un clip qui traîne sur YouTube depuis deux ans, la sortie de cet album, sur la route 61. Manu Lanvin, au poste.
Hier j'ai causé au diable et à quelques ombres noires. Une Mustang court dans mes veines, me ruine l'âme. Moi qui rêve encore d'espace, qui voudrais suivre ta trace, un océan et des vagues, on sait pas. Quand mon corps sort de sa cage et que mon cœur prend le large, dans les limbes, les voûtes noires de ma guitare. Et je rate le virage sur la route 61. Comme un train qui déraille sur la route 61. Une femme sur un regard m'a donné un peu d'espoir. Ça m'a coûté ma bagnole et quelques larmes. Perdu dans un junkie bar, dans ce monde dégueulasse, j'ai troqué ma guitare contre un carré d'as. Hey! Moi qui voulais être une star, me voilà noyé au sky, accoudé au bar comme une ombre chinoise. Hey! Et je rate le virage sur la route 61. Comme un train qui déraille sur la route 61. Sur la route 61. Et ça t'en dit, mon gars, que fais-tu là? Viens-tu vendre ton âme sur ma route? Sur la route 61.
Manu Lanvin, sur la route 61, ça faisait partie de son album 2012. Voilà, Manu Lanvin qui sort un nouvel album. Vous le savez, on a déjà écouté des extraits dans Sweet Home Chicago. L'album s'appelle pour 2014 Sons of the Blues. Manu Lanvin, l'artiste qui monte. On va pouvoir s'entretenir avec Manu tout à l'heure. Mais je vous rappelle qu'il y a un Facebook Sweet Home Chicago. Si vous voulez intervenir et vous-même, pourquoi pas poser des questions à Manu en direct, c'est possible. Vous allez sur Facebook, vous tapez Sweet Home Chicago, vous devenez ami si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit bien sûr, et puis il y a sur le fil d'actu tous les amis voilà, qui réagissent au fur et à mesure de l'émission. On poursuit avec un extrait de ce Sons of the Blues, c'est Lorsqu'une femme pleure. Régal que ce tout nouvel album de Manu Lanvin dont il vient de nous gratifier, un album sorti il y a quoi, un petit mois, qui s'appelle Sons of the Blues. Voici le titre album Sons of the Blues.
tiger from head to shoes. I'm no Jimmy, but my mojo's in my boots. No easy like Jagger, the bitch you gonna lose. I'm a street dog sometimes, as cold as a viper. If you love the jabba, I'd slap you for sure. Call me some mister, I'm a minister of blues. I don't roll, I don't crash, no, I do not fly a cruise.
Voilà le genre de titre qui donne un petit aperçu, malgré que ce soit un enregistrement en studio, le genre de titre qui soit un aperçu de ce que peut donner Manu Lanvin sur scène. Manu Lanvin en interview dans Sweet Home Chicago sur le 666, juste après ce nouveau titre, nouvel extrait de Sons of the Blues. Voici donc, voici, Just Wanna Drown.
Just Wanna Drown. That's no lie. I'm doing the countdown to know I'm still alive. Ain't got no hope, got no more love to keep me alive. You left.
Christmas story.
Ce nouvel extrait de Sons of the Blues, le tout nouvel album de Manu Lanvin and the Devil Blues. On en écoute juste encore un avant l'interview. L'interview, ça vient très très bientôt. Voilà les aléas du direct. All Night Long, Manu Lanvin. Night Long, voilà un album typiquement purement blues, enfin purement, hein. On va en découvrir un petit peu plus tout à l'heure avec l'interview de Manu. Les aléas du direct font que, voilà, pour l'instant le téléphone ne fonctionne pas, mais on va poursuivre et puis s'obstiner. Manu, on va en interview dans Sweet Home Chicago, si je l'espère, après le titre qui vient, Going Down. Il va de soi qu'on écoutera ce titre en entier tout à l'heure, I'm Going Down, qui clôture cet album Sons of the Blues de Manu Lanvin. Et je suis au téléphone, voilà, en direct avec Manu. Ça va, Manu?
Super.
Ah bah écoute, voilà, on t'entend fort et clair. C'est génial, la magie du direct et de la technique. Tu es dans quel endroit en ce moment? Il paraît que tu jouais sur la Suisse cette semaine.
J'étais sur le Montreux Jazz Festival pour la 3e édition. C'était une chance énorme encore pour nous de pouvoir participer de nouveau à ce super festival. Puis on a fait un aller-retour là. Pour une fois, c'était un peu calme en fin de semaine, mais en ce moment, la fréquence des concerts est assez intensive.
Et oui, back in Montreux, c'est d'ailleurs le titre d'une de tes chansons sur ce tout nouvel album. On va essayer de reprendre tout depuis le début, Manu, parce que il y a pas mal de choses. Le dossier est épais quand on ouvre le livre Manu Lanvin. Déjà, on passait tout à l'heure des extraits de ta discographie. Ton premier album remonte à 2000, ça fait déjà un petit moment.
Ben ça fait 14 ans. 14 ans, 15 ans. Ah oui, non, je suis plus très jeune maintenant, c'est ce que je me dis. Hein.
Donc, je suis persuadé que...
À 40 ans, on commence à avoir une petite histoire derrière nous, ce que j'avais pas, alors j'en avais 20.
et je suis persuadé qu'il y a certains d'entre les auditeurs qui t'ont découvert avec Mauvais Casting finalement et qui découvrent également ta discographie. Alors les trois précédents albums, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont un petit peu dans toutes les directions. Je parle musicalement et puis également au niveau des paroles. Le chant, c'est quelque chose de primordial pour toi, Manu?
Le chant primordial, oui, ça l'a toujours été. Moi, je me rappelle que déjà à 15-16 ans, lorsque j'ai monté mes premiers groupes, j'avais envie de prendre cette place de leader, comme ça, de mec qui se met devant le micro avec sa guitare. Voilà, j'encourageais tous mes potes à me suivre dans cette aventure-là. J'avais vraiment envie de faire de la scène, j'avais envie de faire du spectacle, car j'avais vu déjà très tôt, très jeune, des groupes comme Téléphone, Trust, qui m'éclataient sur scène, de mon œil de môme, voir des jeunes ambiancer la foule. Cette communion entre le public et des artistes sur scène, ça m'a ému, ça m'a plu, et je me suis dit, cette histoire-là m'intéresse.
Quel a été le rôle de tes parents dans ton goût pour la musique, ton papa Gérard Lanvin notamment, ta maman?
Ma mère qui était chanteuse, ouais. Dans les années 76, elle a quand même été disque d'or, donc elle a vendu plus de disques que je ne vendrais peut-être dans toute ma vie, sachant qu'aujourd'hui plus personne n'achète des disques, tout le monde les télécharge illégalement, à part ceux qui viennent acheter les CD sur les concerts. J'ai eu des parents qui sont artistes, donc qui sont des gens qui sont très sensibles aux arts en général, et la musique est une dominante à la maison, quelque chose qui était très dominant. Je me rappelle que c'était à tourner 24 heures sur 24, quoi. Moi j'ai écouté toute la musique des années 70 en boucle et en boucle avec des chanteurs. Ça passait de Salé de Otis Redding à Sam and Dave, à Joe Cocker, à toutes ces voix un peu enraillées, cassées, comme ouais. Même Paul Personne. Déjà, Paul Personne faisait déjà partie très tôt de notre environnement musical. C'était des artistes que nous écoutions et c'est sûr que ça vous prédispose, c'est-à-dire que ça vous donne une culture musicale, tout simplement.
Bah oui, des voix bien rauques et puis bien abîmées pour certaines. C'est Paul Personne. On peut parler de Calvin Russell, qui est également une rencontre aussi extraordinaire pour toi.
Et Calvin Russell fait partie des artistes qu'on nous écoutions lorsque j'étais minot. Moi, on écoutait Calvin, donc effectivement, le jour où je l'ai rencontré, ça a été le vrai virage pour moi d'ailleurs. Hein. Calvin, c'est au bout du troisième album, c'est une période très dark pour moi. J'ai vécu vraiment une année très difficile où ouais. Maison disque voulait de moi. J'étais vraiment perdu, même des gens qui m'aimait apparemment, me disait tu devrais changer de métier, enfin trouve autre chose quoi, on n'y arrive pas, on galère, c'est très difficile lorsque, moi je n'ai jamais été un mec, j'ai toujours été un mec plutôt fier, hein, j'ai pas honte de le dire, fier dans le sens où si je n'ai pas ma place dans un endroit, je n'y reste pas, sauf qu'il y avait toujours le concert, le public, peu de public, mais quand même des gens qui me donnaient foi, et des gens même comme Paul Personne, comme Bernie Bonvoisin, qui m'ont accompagné très tôt lorsque j'étais jeune à 20 ans, que j'ai eu la chance de rencontrer, et qui me donnaient la foi, qui me disait Manu, t'as un truc, travaille ton clou, travaille ton histoire, voilà, ta place dans le paysage français.
Oui, avec persister. Avec plein de gens comme ça qui ont mis leur main sur ton épaule et qui t'ont dit vas-y, va de l'avant. Et puis moi j'estime qu'ils ont eu raison. Je pense que je suis loin d'être le seul.
Bien sûr.
Plus de 120 concerts rien que sur l'année 2013.
Enfin, ouais.
En 2009, on parlait quand même de Calvin Russell. Il y a une question que je voudrais te poser. Comment s'est passée la coécriture et la réalisation de
Bob Dylan? C'est incroyable parce que moi j'étais dans cette période très très dark, très dark. Alors, vraiment, moi j'avais des messages très blessants de ma maison de disques qui ne m'aimaient plus, hein, parce que on a quand même une relation d'amour avec les gens avec qui on travaille. On a besoin qu'ils nous aiment pour qu'on soit fort.
Ah,
et quand on vous aime plus du tout, vous êtes abandonné. Ce qui explique d'ailleurs souvent la dérive de plein d'artistes, hein, lorsqu'on leur dit ciao, on leur rend leur contrat. C'est très difficile. Vraiment, c'est très difficile. Surtout quand on arrive à 33 ans et qu'on a pratiquement tout misé là-dessus, c'est très déstabilisant, et puis surtout que j'avais plus du tout confiance en moi. Mais je rencontre Calvin Russell dans les backstage d'un concert de Paul Personne à la Cigale, et le courant passe, il y a un truc magique qui s'est passé pendant notre rencontre, on est devenus potes hein, pendant un an, il s'agissait pas de travailler ensemble, le courant passait, ce mec qui me faisait peur quand j'étais jeune, avait quand même des yeux d'enfant, et moi ça me plaisait d'être avec lui, de passer des soirées avec lui, sa femme disait c'est incroyable l'énergie qu'il a à ses côtés, Calvin, lui qui maintenant à son âge, et puis compte tenu de la faiblesse qu'il avait accumulée à force de petits abus qu'on lui reconnaît,
oui.
fait que maintenant il restait chez moi jusqu'à 5-6 heures du matin, on écoutait de la musique, c'était super, bref. Et puis j'étais le voir à Austin, j'ai passé du temps avec lui, et j'ai vu que finalement, même tout autant Calvin Russell qu'il était, il avait les mêmes problèmes que moi, finalement, des maisons de disques qui disaient des choses mais qui ne les faisaient pas, plein de choses, et moi ça m'a parlé, j'ai dit mais t'as besoin de quoi Calvin pour refaire un album, parce que les gens ils t'aiment ici en France, les gens ils ont envie de te voir, moi je vois que quand t'arrives sur un concert de Paul Personne, les gens ils te redemandent sur scène, donc il y a de l'amour encore qui t'attend ici, et puis on a besoin de t'entendre, et j'ai vu qu'il était un peu largué par rapport à ça, donc je lui ai juste proposé au début de produire son album, c'est-à-dire lui organiser, faire l'organisation, faire entre guillemets, même pas le réalisateur artistique au début, c'est juste produire. Puis, il m'a dit banco, on y va, on avait tout organisé, puis plus la date des premiers enregistrements arrivait, plus je voyais qu'il était en panique parce qu'il n'avait aucune inspiration. Il prenait déjà des traitements à cette époque qui le fatiguaient, et il n'avait pas l'inspiration, ce qui peut arriver, hein. Souvent c'est la panique devant la copie blanche. Et puis moi, je me suis pas démonté. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi une semaine. Je vais essayer de te cogiter des trucs. Je me suis mis à enfermer en studio et j'ai pensé qu'à lui pendant une semaine. J'ai écrit des trucs, j'ai balancé des riffs, j'ai enregistré des trucs dans mon studio, la chocolaterie à Paris.
Mmh.
Et je lui ai envoyé ça, silence radio pendant 10 jours. J'ai dit, là, il n'ose pas me dire, parce qu'on était amis. Il n'ose pas me dire qu'il n'aime pas ce que je lui propose et que c'est mort, on n'y arrivera pas. Or, il m'a rappelé 10 jours après, il m'a dit, Manu, je sais pas ce que t'as fait, mais tous les morceaux que tu m'as envoyés, je les prends tous. Et tu vas pas juste produire l'album, on va coécrire l'album ensemble.
Champagne.
J'adore tes riffs, j'adore tes mélodies, j'adore cette idée-là, je vais changer certaines choses, je vais amener mes mots, je vais amener mes textes, je vais amener mes histoires, mais c'est parti, l'album, on l'a. Voilà, et on est parti à l'aventure ensemble, et c'était une aventure que les gens qui s'y sont intéressés connaissent. Je suis parti sur scène avec lui, j'ai remonté une équipe de musiciens autour de lui, et ça a été magique, cette collaboration, moi, m'a remis en selle. Et tous ces gens méchants, souvent aussi un peu jaloux, voilà, tous ces gens-là qui ne m'aidaient pas dans ce système français qui est très, très, qui est pas organisé pour des artistes finalement, qui ont juste des projets personnels, et ben d'un seul coup, ils ont tous retourné leur veste et ils se sont dit, ah oh, putain, merde, Manuel Envoi, finalement, on a peut-être négligé certaines choses. Donc voilà, ça a été un joli pied de nez, et donc je suis très reconnaissant, je serai toujours reconnaissant pour ces rencontres que quelque part organisé Paul Personne. Paul y est pour quelque chose, et Calvin m'a aidé de me décomplexer de tout.
Mais c'est vrai que Paul Personne, c'est magnifique ce que tu nous racontes, Manu, par rapport à ta rencontre et à ta collaboration avec Calvin Russell. Rest in peace, Calvin, bien sûr.
Ouais.
Malheureusement, encore un gars qui nous quitte un peu trop tôt. Il y a eu d'autres rencontres comme ça qui ont jalonné, j'allais dire, ta mise au blues, malgré le fait que depuis le premier album, il y a du blues dedans, quoi, en fait. Hein.
Bien sûr.
On a écouté tout à l'heure L'Aileur, Le Sniper, voilà, ce sont des choses, ce sont des titres qui préfigurent un petit peu Mauvais Casting, et peut-être aussi cet album Sons of the Blues. Est-ce que la carrière que tu vis actuellement, le grand essor que tu vis actuellement, tu dirais, je le dois à 1, 2, 3, 10 personnes? Est-ce que tu penses que tu as une legacy, des choses à devoir à quelqu'un maintenant?
Non, je pense que c'est des échanges, hein. Je pense que la rencontre Calvin a été aussi bien intéressante pour lui que pour moi, car c'était quelqu'un qui était totalement down aussi de son côté. Moi, je me rappelle, il voulait arrêter la musique. Moi, il m'a dit, Manu, j'arrête la musique. Je me rappelle quand on se baladait du côté du Texas à Austin en bagnole et qu'on parlait pendant ces miles qu'on enquillait lui et moi. Et voilà, il me confiait qu'il en avait marre, il préférait rester avec ses chiens à la campagne, et que tout ce système, maison de disque, tout, il en avait fait le tour, ça, voilà, les bonnes paroles, les mecs qui te draguent dès que t'arrives en te faisant, ah, on t'adore et tout ça, et dès que l'album il sort, ça, il s'occupe plus de toi, il en était épuisé. Donc, voilà, moi, j'ai juste l'énergie, je suis un mec qui fonctionne avec des coups de cœur, et quand je m'emploie dans un projet, j'y vais à fond. Moi, j'ai défendu Dog Eat Dog comme un malade, et on a fini, j'ai envie de dire, un peu en beauté. Cet album a été très, très publicité par tous les médias spécialisés comme étant un album vraiment très intéressant dans la discographie de Calvin, bien différent même dans la manière dont il était produit.
Oui, c'est vrai.
Et c'est super. Voilà, on s'est rencontrés. La vie est faite de les rencontres qui nous font avancer. C'est celles dans lesquelles on est exact. Je pense que les rencontres comme Calvin, comme Paul, on est dans des exactitudes. Donc on sait un peu se reconnaître. On connaît les mêmes problèmes quelque part, et de s'associer de temps en temps sur des coups, ça peut donner des belles choses comme l'album qu'on a fait pour Calvin.
On en écoute un petit extrait si tu veux.
Super.
Better he's a rolling through the air. Cause he's a hidden, ain't leaving your love. I ain't leaving your love. Not for heaven and earth.
Voilà, il est tout seul dans la rue, et puis il joue de sa belle guitare.
Oui, c'est Tom Van Zandt. Ça, c'est un morceau de Tom Van Zandt, and Living Your Love. Et voilà, c'est un morceau que Calvin a repris et qui était
devenu un
de ses standards, bien évidemment.
Quelle oreille, effectivement. Manu Lanvin, dis-moi, la scène pour toi, ça représente quoi? Parce que tu parlais du moment où ça se passait un petit peu mal après ces trois premiers albums, et c'est quelque chose qui te manquait absolument. Maintenant que tu y goûtes et que tu y regoutes, et qu'à la limite, il y en a too much peut-être. Non, je sais pas.
Bah, too much, non, je rattrape les années où j'ai pas joué. C'est ce que je me dis. Voilà, toutes les années où j'attendais qu'on m'appelle en me disant, tiens, t'as des concerts là, t'as un concert là. Des festivaliers me boudaient, des programmateurs me boudaient. Il a suffi juste qu'on fasse le Montreux Jazz Festival il y a 2 ans, qu'on rencontre des gens super comme Quincy Jones qui m'ont invité à plusieurs reprises à New York à aller jouer pour la Jazz Foundation of America. Et encore une fois de plus, les Français se sont réveillés. Enfin, j'entends les Français.
Ouais.
Les filtres, c'est...
C'est ça, les filtres des médias.
Médias, ouais. Programmateurs, ils se sont tous réveillés. Ils se sont dit, putain, on est en train de nous shipper un Frenchie. Si c'est les Ricains qui le font, c'est qu'il doit avoir quelque chose. Mais je le dis en rigolant parce que c'est pas du tout par revanche. Je suis très très content et très très heureux aujourd'hui.
Il n'y a pas d'amertume dans ton message.
Aucune amertume parce que moi je suis très content de tourner ici et je pense fondamentalement quelque chose. Si j'essaie de faire la rétrospective de tout ça, c'est que j'aurais jamais pu faire les albums que j'ai fait. Ces deux derniers albums, Mauvais Casting et Son of the Blues, j'aurais jamais pu les faire à 14, 15, 16, 17 ans. C'est la résultante d'un parcours d'échecs, de beaucoup d'échecs. Bon, j'ai pas peur de le dire. Beaucoup d'échecs. Voilà, ça prend du temps et après on gagne en maturité sans doute, en personnalité. Et bon voilà, et c'est effectivement grand respect pour Monsieur Calvin Russell, mon pote, mon ami, mon papa, mon copain, voilà, qui m'a totalement décomplexé. Il m'a dit Manu, il y a des choses intéressantes dans ta musique, ne perds pas ça, il y a quelque chose.
Oui.
Et moi je m'associe avec toi sur ce coup-là, c'est qu'il y a des choses, donc ça a permis ça m'a permis de gagner de la force par rapport à tous les directeurs artistiques. Tout le monde qui disait, mais qu'est-ce que tu fais, toi, à faire du blues rock? C'est pas une musique pour la France. Hein. Tu veux pas plutôt faire une comédie musicale, chanter des chansons à la con de Pascal Obispo et tout ça? Enfin voilà, tous les trucs à la con qu'on m'a proposé pendant 15 ans. Et je disais, non, je ne m'y reconnais pas. Je veux pas faire de la musique et être malheureux. Je veux faire de la musique parce que, pour moi, c'est la liberté, la musique. Et donc, c'est une forme de bonheur.
Alors ça, il faudrait la recopier et l'encadrer, Manu, cette phrase-là. Bon, en tout cas, tu me rappelles Paul Persson, il avait dit un petit peu la même chose que quand j'avais interviewé il y a peut-être 2 ans. C'est quelque chose de vrai et puis qui sort du cœur et qui sort des tripes aussi, comme ta musique parfois, qui est parfois très très explosive, très rock. Hein. Tu parles de blues rock, c'est vrai que musicalement, on est un petit peu au crossroads de plein de choses. Et puis on est finalement, j'ai l'impression qu'on est finalement que la somme de ses propres influences et puis de ses envies aussi.
Tout à fait.
Comment se passe la coécriture, le choix des titres, comment a été créé un album comme Sons of the Blues, Manu?
Alors, Son of the Blues, alors très curieusement, il s'est fait de manière très naturelle parce que Son of the Blues a été composé pendant l'après Mauvais Casting, c'est-à-dire la tournée de Mauvais Casting avec le Devil Blues, avec mes deux compères, qui sont Gabriel Barry et Jimmy Montou, car on tourne en Power Trio. Et en fait, ça s'est fait de manière naturelle. On a tellement enquillé de concerts que de temps en temps, pendant les balances, moi j'avais des idées de riff, pendant les voyages, des idées de texte, des idées de mélodie. Donc j'enregistrais tout, comme on fait tous, de notre côté, nous les compositeurs, dictaphone, iPhone, voice recorder, tout ce qui nous permet message sur nos répondeurs pour pouvoir garder nos idées. Et donc il s'est composé au fur et à mesure, et même des morceaux qu'on a pu tester du coup avant les enregistrer, car on jouait beaucoup, on a fait 120 dates de concert sur l'album Mauvais Casting, et donc on pouvait du coup répéter avant les concerts et les formules, et il y a des formules qui fonctionnaient bien, donc on évolue naturellement. Donc quand on a enregistré les rythmiques de l'album, ça a été très vite en fait. Je pense que si on compacte les différentes prises des jours de séance, allez, on va dire en 2 semaines, les rythmiques étaient faites, quoi. Tout le travail de rythmique.
Oui, parce que tu l'as dit, c'était rodé déjà sur scène.
Exactement.
Et alors justement, la question corollaire à ça, c'est au niveau de tes musiciens, les gens qui t'accompagnent, Jimmy Montou à la batterie, Gabriel Barry à la contrebasse. Voilà, ce sont des gens avec qui tu partages la scène. Je veux dire, tu fais pas partie de ceux qui prennent des artistes pour enregistrer et puis qui des groupes, puis qui prennent un groupe à eux pour la scène, c'est autre chose.
C'est vrai, j'aurais pu faire comme ça, je faisais comme ça souvent avant, mais souvent c'est pas des histoires, je dis, de disponibilité, parce qu'on préférerait travailler avec les musiciens avec lesquels on enregistre les albums, mais après sont-ils disponibles et tout. Son of the Blues, il était normal que je mette aussi en avant mes deux potes.
D'ailleurs, le S qui est juste après Son fait partie du titre de l'album, mais il est aussi pour deux, j'imagine.
Exactement, et à tous ceux qui se sentent fils du blues aussi. exactement, mais c'est ça. Et voilà l'idée de la contrebasse dans ce power trio qui est présente et qui est pour nous la pâte de fabrique du trio, donc de l'album. Je voulais que ça se retrouve sur l'album, et donc j'ai effectivement encouragé à ce que ça soit les deux mecs qui m'accompagnent sur scène qui posent les rythmiques des sur les morceaux. Bon, il y a certains titres finalement qui tournaient mieux avec les basses, en même temps je m'y suis collé un peu, parce que voilà, j'ai toujours cette âme de producteur qui m'anime, donc j'aime bien toucher un peu à tout, mais essentiellement, voilà, tous les titres ont été enregistrés avec les parties d'orchestre de mes deux gars, donc voilà, c'était important. Et puis, en trio, c'est un équilibre très fragile. C'est un exercice très très compliqué.
Oui, oui. Bah, guitariste-chanteur d'un trio, ouais. J'imagine, voilà.
C'est un équilibre très fragile, on est en équilibre sur un fil et c'est important de laisser de la place à la batterie et à la basse. Parce qu'on a besoin de leur laisser un peu plus d'espace et tout ça. Et j'ai trouvé en Gabriel et Jimmy des vraies personnalités de jeu et qui se complémentent. Donc c'était normal de les mettre en valeur et c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà il y a pas c'est pas Manu Lanvin, c'est Manu Lanvin et le Devil Blues.
Voilà.
Et c'est comme ça.
Il y a une collaboration qui continue peut-être aujourd'hui encore, je ne sais pas, avec Neil Black qui est un artiste américain que beaucoup connaissent dans l'émission. Un Texan émigré en France depuis plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'il enregistre chez Philippe Langlois à Dixie Frog. Ouais. Comment s'est passée la rencontre avec Neil ?
Neil est venu m'appeler. Il avait écouté l'album Doug Eat Dog que j'ai donc produit et réalisé avec Calvin Russell, pour Calvin Russell. Il avait écouté ça parce qu'on avait la même attachée de presse, Sophie Louvet, qui est une attachée de presse qui s'occupe beaucoup d'artistes.
Salut Sophie. Salut Sophie, on t'embrasse,
ouais. Ouais, et en fait, elle a donné mes contacts à Neil Black, qui voulait connaître mon studio parce qu'il aimait le son qu'on faisait là-bas à la chocolaterie dans mon studio. Mmh. Et il travaillait avec une artiste qui s'appelle Janet Martin, et il a dit voilà, je dois réaliser l'album de Janet Martin, une artiste, une chanteuse, slideuse assez intéressante, qui est une amie, je lui ai écrit quelques titres et tout, on aimerait bien enregistrer chez toi, voilà.
Au passage, Janet Martin, c'est une artiste qu'avec le collectif des Radio Blues de ton notre ami commun Francis Rateau, on avait fait venir pour sa toute première tournée, c'était en 2004.
D'accord, ouais, c'est super.
C'était super.
Janet, super, super slideuse, j'adore, avec son mari à la basse qui est extraordinaire.
Michael Muller, ouais.
Mais il est super ce mec, j'adore ce bassiste, j'adore le bonhomme, c'est un personnage. Voilà, c'était donc beaucoup de bonheur pour moi de les recevoir à la chocolaterie. Et puis bon, on avait quelques heures de temps en temps, on a pu discuter lui et moi. Et ce qui nous a liés, Neil et moi, c'est le Texas. Parce que lui était un mec de San Antonio, Calvin il connaissait, Austin, tout ça. Donc moi, j'avais perdu mon pote quand même. Donc c'est vrai que j'ai retrouvé en Neil une manière de continuer à être près de cette région des États-Unis qui m'est chère. J'y ai passé du temps et voilà, et on a pu parler de plein de choses et ça nous a liés, bref.
Et ça a donné Paris Texas Tour, hein, c'est ça.
Exactement, exactement. Et du coup, on s'est dit pourquoi on ferait pas un bout de chemin ensemble sur scène. Et moi, de me coller à un sacré guitariste comme Neil Black, car c'est quand même un sacré guitariste, moi, c'est toujours instructif. Moi, j'ai toujours besoin d'apprendre, et j'ai un grand respect pour les anciens. Enfin, les anciens, je ne vais pas l'enterrer. Neil Black, ça reste un mec qui est encore jeune. Mais de travailler avec des mecs qui ont plus d'expérience que moi, ça m'intéresse. Oui. Parce qu'on a toujours besoin d'apprendre, et moi, j'apprends toujours avec les autres. Et j'ai dit, super, allez, banco. On s'est fait une quinzaine de dates avec le Paris Texas Tour. Et c'était super, on a pu rencontrer...
J'ai vu ça à Cahors l'été dernier, c'était très 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 bien.
J'ai pu voir Mike Latrell aussi, son clavier, qui est aussi un genre de mec très intéressant dans le boogie blues, qui pour moi est très très fort, et voilà, c'est instructif. Donc c'était super cette tournée.
Manu, il y a trois noms d'artistes dont j'aimerais te parler, mais de façon différente. Celui-ci, on va l'écouter d'abord, si tu veux bien.
Ouais.
Tu me dis dès que tu reconnais, hein, il n'y a pas de piège, hein, voilà. Au téléphone, comme ça, à plusieurs centaines de kilomètres d'écart, ça ne doit pas être simple.
C'est pas simple.
Allez, j'en laisse encore un petit bout.
Ouais, justement, attends.
Vas-y. You know, I say get on back,
people. But I believe my tube is wrong. Non, je sais pas. Là, je suis collé.
Ah,
c'est quoi?
C'est un garçon dont t'as fait la première partie. C'est monsieur Johnny Winter.
Ah putain, je le connais tellement mal
En fait,
je le connais plus en électrique, quoi. Je connais tellement Johnny Winter en électrique.
C'était ça le truc un peu piégeux. En fait, voilà, c'est un extrait de cet album qu'il avait fait en 77 qui s'appelait Nothing But the Blues, voilà.
Oui, et puis il a une voix super jeune là.
Je pense qu'il a 33 balais en 77.
Ouais, c'est pour ça.
Alors dis-moi, le fait d'avoir ouvert pour Johnny Winter, c'était quelque chose de particulier pour toi, Manu?
C'est toujours super ces rendez-vous quand t'as quelqu'un, un tourneur qui t'appelle en te disant dis-moi, ça te dirait de faire la première partie de Johnny Winter à l'Olympia? C'est un rêve de gosse, encore une fois de plus, qui se réalise. Je dis, non, mais tu plaisantes ou quoi? Bah, bien sûr que je viens faire la première partie de Johnny Winter. C'est génial. Alors, bon, Johnny Winter, il est plus tout jeune. On a eu la chance de le rencontrer après. Voilà, quoi.
Johnny Winter, il sera à l'affiche la semaine prochaine du Cahors Blues Festival, millésime 2014. Eh oui, il a 70 ans cette année. Hein.
Mais non, mais c'est incroyable. Il a quel âge, tu me dis?
70.
Tu peux lui en rajouter 10. Hein.
Ah oui, oui,
c'est-à-dire, c'est des gars qui ont eu des vies bien chargées, on va dire.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose, parce que moi, j'ai vu Johnny Winter avant et après le concert.
Mm-hmm.
Voilà, quoi. Il y a le poids des années, le poids des excès, il y a tout ça. Et dès que tu le mets sur scène, le mec, t'as tous les bras qui bougent, les mains, le slide et tout. Ouais. C'est un truc de dingue, c'est un jukebox.
C'est marrant, c'est un peu ce que disait. Il y a 15 jours, j'interviewais l'ami Robert Moriès, tu sais, du Cahors Blues Festival. Et on évoquait justement, parce qu'il est venu déjà il y a 3 ans à Cahors, il revient cette année. Johnny Winter qui est en train de renaître de ses cendres, parce qu'il y a quelques années, tout le monde le donnait pour mort. C'est vrai que ça fait
bien. Sûr.
J'ai encore des albums il y a 15 ans, déjà 15 ans, tu vois, où il jouait plus, quasiment plus. Enfin, c'était, voilà. Il y a un autre artiste dont je voulais te parler, mais là, qui figure pas sur aucune de tes bios, rien, mais un artiste qui, voilà, je pense que ce que toi tu fais, ça fait pas forcément penser à lui tout le temps, mais il y a eu certains aspects de ton nouvel album, notamment, je veux pas tourner autour du pot, c'est Willie DeVille. Est-ce que c'est quelqu'un que tu écoutes beaucoup?
Ah, c'est marrant, j'ai beaucoup écouté Willie DeVille quand j'étais jeune, bien évidemment, énormément, mes parents écoutaient ça en boucle, Mink DeVille, Willie DeVille, ils écoutaient ça en boucle, tous ces albums-là, j'ai écouté Georges Thorogood et Mink DeVille, et Willie DeVille plutôt, c'est des trucs que j'écoutais en boucle. C'est vrai que je n'en fais pas référence, car c'est ancré vraiment dans ma tête. Que j'ai vraiment ça, j'ai intégré sa musique, je l'ai beaucoup, mais c'est vrai que je n'y ai pas repensé depuis. C'est très étonnant.
Mais il y a un extrait qu'on a écouté tout à l'heure. Franchement, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et puis un autre artiste, mais alors là c'est pareil, on va pas faire des comparaisons pour la comparaison copier-coller, mais au niveau de ton approche de la musique et du business musical, mais également au niveau de la voix sur certains titres, moi je pense parfois à Nino Ferrer.
Bon, ben ça va, c'est des bonnes références.
Ah,
tu m'aurais dit, tu m'aurais dit Patrick Bruel et ou Raphaël, j'aurais été blessé, mais non, même si je n'ai rien contre eux. Mais ça va, pour le moment, ça me va ce que tu me dis.
Voilà,
mais
écoute,
ça me froisse pas, je suis pas froissé.
C'est super. Nino Ferrer, voilà, encore un garçon qui nous a quitté un peu trop tôt et puis qui n'avait pas fini de tout dire.
Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que Nino Ferrer, tu vois, ça paraît con, mais ce mec-là, ça fait partie de certaines gens que les maisons disques ont brisé. Ce mec-là, il se met une balle dans la tête, dans un champ, mais c'est la résultante de plein de choses. C'est un métier très, très difficile, ce qu'on fait.